Comme l'a dit Maryse, nous sommes dans une série de cultes autour des paraboles, des histoires que Jésus aimait raconter à ses contemporains, à ceux qui le suivaient, à ceux qu'il rencontrait. Et ce matin, après avoir parlé la première fois d'une parabole d'économiste, la deuxième fois d'une parabole de boulanger, nous parlerons aujourd'hui, vous l'avez compris, d'une parabole de jardinier. Mais si on veut parler d'un jardinier, il faudrait définir ce que c'est. Le jardinage, vous le savez sûrement, consiste à cultiver dans un lieu généralement clos et à l'extérieur des végétaux. Jusque-là, tout va bien. Mais le jardinage, c'est aussi un art. Et c'est l'art de cultiver les jardins. Ce sont les travaux qu'on accomplit au jardin. Un art. Et justement, après une définition, la personnalité du jour. André Lenôtre. Les deux dernières fois, on avait des personnalités contemporaines. Aujourd'hui, une personne qui appartient à l'histoire, au temps de Louis XIV, et vous vous souvenez peut-être plus de vos cours d'histoire, mais vous vous souvenez certainement de ses œuvres, celles des jardins du château de Versailles, par exemple. C'est à lui qu'on le doit. C'était le jardinier en chef du roi, un artiste. Et pour lui, je cite, « un jardin est un tableau que l'on peut voir et toucher. » On y reviendra. Et en parlant justement de voir et de toucher, en parlant de sens, je vous propose de nous immerger au premier siècle de notre ère et d'entendre Jésus raconter une histoire. Et peut-être que nous pourrons quelque peu voir et toucher ce tableau. Jésus disait cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le cette année encore. Je creuserai la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon, tu le feras couper. » Jésus dit, « À quoi le règne de Dieu ressemble-t-il ? À quoi le comparerais-je ? Il est comme une graine de moutarde que quelqu'un prend et met en terre dans son jardin. Elle pousse, elle devient un arbre, et les oiseaux font leur nid dans ses branches. » Amen. Quelques mots de contexte. C'est un contexte à deux niveaux dont on a besoin pour mieux comprendre cette parabole. Tout d'abord, il faut se rappeler de l'époque, de ce premier siècle de notre ère, il y a 2000 ans, où les propriétaires de ce coin-là du globe, au Proche-Orient, ont l'habitude de planter d'autres arbres fruitiers au milieu de leurs vignes. À cette époque, il est aussi vivement recommandé, voire interdit par certains rabbins, de cueillir des fruits les 3 premières années de vie d'un arbre. Ensuite, l'autre contexte qu'il faut prendre en compte, c'est celui du livre, de l'Évangile, de Luc, où nous trouvons ce texte. L'auteur place cet épisode, cette parabole, juste après que Jésus ait évoqué des catastrophes. En effet, Jésus alerte ses auditeurs en leur disant « Pensez-vous que toutes ces personnes mortes à cause de telle et telle catastrophe étaient plus coupables que vous ?» Sous-entendu, vous pensez vraiment qu'elles méritaient de mourir plus que vous ? Ou bien pensez-vous vraiment être meilleur qu'eux pour ne pas souffrir des mêmes conséquences, des mêmes catastrophes ? Un arrière-plan, un contexte de catastrophe, de questionnement de la part des auditeurs. Alors on résume les personnages de cette histoire. Il y a la foule, les auditeurs à qui Jésus raconte l'histoire. Il y a Jésus, bien sûr, il y a un homme qui est propriétaire de terres, de champs, de vignes et d'autres arbres fruitiers, probablement riches. Et puis, il y a un vigneron qui est aussi probablement l'esclave, tout simplement, du propriétaire. Mettons-nous maintenant dans la peau d'un jardinier. Que dirait, ou plutôt qu'aurait dit par exemple André Le Nôtre, de la façon dont cet homme cultive son jardin, sa vigne ? Est-ce qu'André Le Nôtre aurait pris le parti du propriétaire, celui de couper un arbre qui ne lui rapporte rien, le parti de ne penser qu'au retour sur investissement, qu'aux bénéfices pécunier qu'il peut tirer de son travail ? Ou bien aurait-il pris le parti du vigneron, celui de donner sa chance au plus petit, de donner sa chance au faible, à celui qui semble ne pas avoir grand-chose ? Et on l'a dit lors des précédents cultes, Jésus, par ses paraboles, veut décaler la perspective des auditeurs. Et là, il le refait à nouveau. Le véritable jardinier dans l'histoire, ce n'est pas ce propriétaire ni ce vigneron. Ce n'est pas non plus l'un d'entre nous. Ce n'est même pas André Le Nôtre. Non, le véritable jardinier dans l'histoire, c'est bien Jésus. Et son travail est beau, propre et soigné. On a entendu parler des délices tout à l'heure. Et dans l'histoire d'aujourd'hui, Jésus pointe trois failles, trois critiques dans l'attitude du propriétaire. Tout d'abord, cet homme est insouciant. Il ne s'intéresse pas à l'autre, en l'occurrence à son vigneron ici. Ce propriétaire ne sait même pas que les quatre, voire cinq premières années de vie d'un figuier, eh bien que le figuier ne porte pas forcément de fruits, ou pas encore du moins. Et je ne sais pas pour vous, mais là j'ai une image qui me vient en tête. Cusco, l'empereur mégalo, qui veut absolument construire une ville dans un endroit où vivent paisiblement ses sujets, dont le courageux Pacho, qui tente de l'en empêcher, mais Cusco ne connaît pas ses sujets, il ne connaît pas leur vie. Il ne s'y intéresse même pas. Il ne sait pas que ces sujets qui vivent à cet endroit-là ont besoin de ces terres pour vivre. Deuxième faille, cet homme est sans pitié. Il n'y a pas de figue, alors il faut couper le figuier. On s'en débarrasse. Il y a là quelque chose de l'instantané, du coup de tête, une certaine violence, voire peut-être même vengeance, sans aucune réflexion, sans pause. Et là, l'image qui me vient en tête, excusez-moi des références de mes enfants, c'est la marâtre de Cendrillon. Vous connaissez l'histoire, cette femme, cette belle-mère intransigeante et méchante qui n'en a que faire de sa belle-fille et qui est simplement intéressée par la situation confortable de son nouveau mari. Et elle n'a aucune pitié pour Cendrillon. Troisième faille, l'homme est avide. Il ne supporte pas que son terrain soit occupé inutilement. Il ne supporte pas le vide. Il ne supporte pas l'idée qu'il y ait du terrain occupé, mais non rentable. Non rentable tout de suite. Il est avide. Et là, l'image qui me vient en tête, celle d'un président, d'un chef d'État qui veut toujours plus grand pour lui-même. Des terres qui rapportent. Quelqu'un qui se croirait au-dessus des lois de son pays et des pays des autres. Et je vous laisse mettre le nom du chef d'État que vous voulez. Ça convient bien à beaucoup. Heureusement, Jésus ne s'arrête pas là. Jésus ne s'arrête pas aux critiques et aux constats qu'on peut percevoir des fois amers, difficiles à avaler quand cela nous concerne. Jésus, en bon jardinier, donne des conseils. Et l'auteur de l'Évangile souligne bien ces conseils, et on en relève également trois. Le premier, c'est la sagesse. La sagesse plutôt que l'insouciance. Jésus nous invite à sa suite à laisser quelque part inspirer nos actes par la sagesse plutôt que par l'avidité. Jésus nous invite à réfléchir. Il nous invite à réfléchir aux conséquences de nos actes, conséquences de nos réactions. Qu'est-ce que telle ou telle action de ma part pourrait produire chez mon prochain ? Et la suite de l'histoire, elle relève que le vigneron a eu une parole de sagesse. Pas une parole de rentabilité, c'est vrai. Pas une parole d'insouciant ou d'ignorant, mais une parole de sagesse. Laisse-le encore cette année. Deuxième conseil, le prendre soin. Et c'est là, quelque part, un résumé de l'Évangile, de ce que Jésus a fait sa vie durant, prendre soin de l'autre. Et en jardinage, soyons honnêtes, c'est toujours plus simple de prendre soin d'un bel arbuste ou de belles fleurs qui ont une belle apparence, peut-être qui ont des belles fleurs, peut-être des arbustes qui portent de beaux fruits, qui a une belle place dans le jardin, plutôt que de prendre soin de ces arbustes pas très jolis, dont les fleurs fanent vite. Et prendre soin de l'autre, de celui qui est différent de nous, celui qui a moins ou plus, de celui qui est plus faible ou plus fort, de celui qui est d'une culture différente, qui est peut-être physiquement ou intellectuellement différent, c'est pas toujours simple. Mais le Christ nous invite à prendre soin de l'autre, quel qu'il soit. Et ça, c'est une belle nouvelle, parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous et toutes au même niveau, et nous sommes tous et toutes différents de lui, et bien différents. Et pourtant, il nous aime quand même. Troisième conseil, l'espérance. C'est ce qui nous permet de vivre dans ce monde en souffrance. De se frayer un chemin dans les jardins pas toujours heureux, comme disait Maryse. Et Jean d'Ormesson disait « Ce qui éclaire l'existence, c'est l'espérance. » C'est un petit peu ce que Jésus essaie de dire à ses auditeurs par cette conclusion à la Dijonnaise, quand il parle de cette graine de moutarde qui deviendra un arbre avec du fruit, mais aussi avec de belles branches qui pourront accueillir des nids d'oiseaux, au contraire du figuier d'ailleurs, qui est un arbuste plus petit. Comme quoi, l'apparence d'une graine de moutarde n'aurait jamais aidé ce propriétaire à y croire, à oser, à espérer. Et finalement, être signe d'espérance, c'est ce que les chrétiens sont appelés à être pour le monde. « Malgré tout, les conseils du jardinier Jésus, du jardinier en chef, sont à appliquer à deux niveaux différents. Et ils nous emmènent vers une même finalité. Le premier niveau, c'est celui de notre vie sur terre, notre vie présente. Et en tant qu'apprenti jardinier, on reste toujours dans les métiers d'artisanat, et en tant qu'apprenti, en apprentissage, à la suite du Christ, la façon dont nous jardinons, dont nous prenons soin, avec sagesse et espérance, de notre jardin, de notre terre, de notre environnement biologique et social, eh bien, ça peut changer beaucoup de choses pour notre prochain. Finalement, ne pourrait-on pas, à la suite du Christ, bien sûr, et avec lui, être ce tableau dont parlait André Lenôtre, que le monde pourrait voir et toucher. Deuxième niveau, c'est celui de notre vie, future, en présence de Dieu, sur une terre renouvelée. Et qu'on se le dise, même si les jardins à la française sont magnifiques, si vous avez eu la possibilité d'aller à Versailles, ou Vaux-le-Vicomte, ou Chantilly, vous pourrez observer la beauté des jardins d'André Lenôtre. Et même si celui-ci était un excellent jardinier, le Christ a en réserve pour nous un jardin qui va au-delà de toute espérance. Un jardin où les fleurs ne faneront pas. Un jardin où il y aura toujours du fruit. Un tableau que l'on pourra voir et toucher. Et en cela, Jésus est le jardinier idéal. Il prend soin de nous, avec sagesse et espérance. Il est celui vers qui on peut venir lorsque la vie nous a blessés, lorsque nous avons besoin d'être soignés, lorsque nous avons besoin que nos plaies soient pansées. Mais il est aussi et surtout, en faisant cela, ce maître, ce jardinier en chef qui nous aime. Chacun d'entre nous, qui nous a donné la vie et qui veut même la partager la sienne avec nous. Amen.